7h42 en temps universel. RFI Matin, la suite, c'est le journal des sports. Avec vous Antoine Grenier, du football au féminin, pour démarrer avec la grande première de Reynald Pedros à la tête de la Côte d'Ivoire.
Un simple match amical pour se faire les dents 2 mois après sa nomination à la tête des éléphantes et sous les ordres du français. Les Ivoiriennes ont dominé le Kenya 2-0 à Abidjan, début signé Grace Ndri et Mariam Diakité sous les yeux de Molamine Sissavane.
Côte d'Ivoire 2, Kenya 0.
Une victoire pour commencer après 2 ans sans un seul match. La première mi-temps a été poussive malgré l'ouverture du score à la 9e minute. Les Ivoiriennes ont ensuite fait mieux en seconde période. Pour Reynald Pedros, il y a beaucoup plus de points à améliorer que de points de satisfaction.
C'est notre premier match international et c'est leur premier match depuis 2 ans. Donc il faut aussi remettre un peu la machine en route, s'appuyer sur ce match-là, sur la victoire et leur dire qu'on n'a pas été si bon que ça, mais qu'on a quand même concédé très peu d'occasions et on aurait peut-être pu marquer 1 ou 2 buts de plus. Donc il y a de la satisfaction, mais bien sûr qu'il faut qu'on travaille encore et encore.
Du travail pour progresser. Et le peu qui a été fait en 2 mois, ajouté au calibre du coach, donne de l'espoir selon Yves Bogbé, journaliste sportif.
On a une nouvelle dynamique qui s'est vue aujourd'hui. On a ressenti une patte de l'entraîneur. Il y a le groupe qui a un peu changé par rapport au groupe qui était présent il y a 2 ans. Il y a beaucoup de jeunes joueuses, telles que la première buteuse. On a senti vraiment que les joueuses avaient vraiment envie de prouver ce soir.
Elles devront prouver à nouveau mardi prochain, toujours face aux Kenyans. C'est l'objectif de Reynald Pedros qui va ensuite continuer à travailler au niveau local avant les fenêtres FIFA, avec en point de mire les éliminatoires de la CAN en octobre. Molamine Sissavane, Abidjan, RFI.
Voilà les chants de des supporters de la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire également engagée à la CAN U17.
Et qui est allée chercher un nul 0-0 face à l'Angola pour la 2e journée de phase de groupe dans un groupe D où le Mali a validé son billet pour les quarts de finale avec une victoire 2-0 sur une Centrafrique réduite à 9. Dans la poule C, le Sénégal et la Tunisie se neutralisent 0-0 et permettent à la Gambie de revenir à une longueur après sa victoire 5-1 sur la Somalie.
En Europe, la Ligue 1 entre dans son sprint final et Paris n'est plus qu'à 90 minutes du titre.
Un nul contre Angers, le Paris Saint-Germain d'Achraf Hakimi remportera son 13e trophée de champion de France. Monaco 2e est lui en déplacement à Brest à 17h temps universel. Un pas de plus vers l'Europe, espère Wilfried Tsingo, le défenseur ivoirien de l'ASM.
Je pense que ce week-end, ça sera un grand match. Vu que nous sommes 2e et actuellement les points sont vraiment serrés. Il nous reste 7 matchs, et pense 7 finales. Et on doit prendre match par match. Maintenant, nous sommes 2e, on doit le rester jusqu'à la fin du championnat. C'est l'objectif du club. Après, on verra comment ça va se passer, mais le plus important, c'est de se concentrer sur déjà le week-end. Après, on verra comment ça va se passer.
Wilfried Tsingo avec Ndiaye Samb, une 28e journée qui se poursuivra avec le duel entre Lyon et Lille à 19h05 temps universel. Hier, Nice s'est incliné face à Nantes 2-1.
Enfin, en basket, début ce samedi de la première des 3 phases de groupe de la Basketball Africa League.
La conférence Kalahari qui va se disputer à Rabat jusqu'au 13 avril. Ce samedi, en ouverture, le Stade Malien affronte les Rivers Hoopers du Nigeria à 15h temps universel. Une conférence Kalahari dans laquelle figurent également les Égyptiens d'Alitiad et les Marocains du FUS Rabat qui s'affronte à 18h temps universel.
Merci Antoine Grenier. Bonjour Jean-Baptiste Placa.
Bonjour Julien Coquelrohem.
Il s'appelait Fiston Cabeya, il est mort après avoir été roué de coups et embarqué par la garde rapprochée de la première ministre de RDC. Son crime, avoir osé rappeler le code de la route à ses bourreaux qui roulaient à contresens sur un boulevard de Kinshasa. Le profond regret de Judith Suminois et la dédramatisation du pouvoir n'ont pas suffi à calmer l'opinion congolaise scandalisée. À quoi faut-il s'attendre désormais?
Au rythme auquel de tels scandales se succèdent dans ce pays, il serait vain d'espérer une révolution durable des mœurs. L'opinion sera bientôt captivée par un autre de ces drames à répétition qui rythment la vie des Congolais et dont cette délinquance routière d'État n'aura été qu'un triste épisode de plus. Par contre, l'expédition punitive de l'escorte de la première ministre choque d'autant plus que, après la brève altercation verbale avec les gardes, Fiston Cabeya et ses collègues avaient aidé le cortège à s'extirper des embouteillages. Mais une fois leur patronne déposée à destination, ces gardes sont revenus violenter l'insolent agent. Comme si dans cette nation, l'entourage de chaque détenteur d'une once de pouvoir politique se croyait habilité à décréter quel comportement relève du crime de lèse-majesté et comment le punir. Convaincus de leur impunité, ils se vautrent donc tous dans la violation des droits des autres.
Comment expliquer un tel niveau de violence de la part de l'escorte d'une première ministre ?
Il y a dans les rapports qu'entretient le pouvoir avec les populations dans de nombreux pays africains une charge de brutalité qui remonte à la colonisation. Le colonisateur supportait mal la contestation, encore moins la rébellion qu'il réprimait violemment. À l'indépendance, cette propension à brutaliser s'est perpétuée avec certains dirigeants des jeunes nations. Au Cameroun, par exemple, il y a eu transmission à travers la répression des maquis de l'UPC, comme une passation de service sur l'art de réprimer. Pour écraser les populations, le pouvoir colonial s'appuyait essentiellement sur la soldatesque africaine, base des futures armées nationales. Au camp de Tiaroy, les Blancs n'étaient pas seuls à massacrer les tirailleurs réclamant leur dû. En Guinée, où Sékou Touré faisait torturer et mettre à mort les ennemis réels ou supposés de son régime, le camp Boiro était tenu par des nationaux. Mais leur fonctionnement était calqué sur ce qui se faisait sous la colonisation. De cette violence coloniale, Aimé Césaire disait qu'elle décivilisait le colonisateur, l'abrutissait, le réveillait aux instincts enfouis, à la convoitise. Et c'est pour mettre en garde contre la perpétuation de cette violence qu'il écrivait que les dirigeants africains ne devaient pas considérer l'indépendance comme l'occasion pour eux de venir en lieu et place du blanc, faire le blanc sur le dos de leurs frères noirs. Ce que l'escorte de la première ministre a fait subir à Fiston Kabeya rappelle en tout point les brimades et les violences de la colonisation belge dans ce même Congo.
Et n'est-ce pas là, Jean-Baptiste, une lecture d'une grande tristesse ?
Chaque dépositaire de l'autorité croit, hélas, incarner et personnifier le peuple et supporte mal toute remise en cause. Et le matamor de l'entourage d'un premier ministre se prend pour le premier ministre des matamors. Plus ils sont intellectuellement limités, plus ils se laissent griser par le sentiment de puissance. Or, dans cet environnement de népotisme généralisé, si Fiston Kabeya avait été le cousin d'un ministre, il serait peut-être de ceux qui roulent impunément à contresens et se pavanent comme s'ils étaient des génies, avec ce réflexe de brute propre à ceux qui aiment persécuter les gens qui leur semblent en position de faiblesse. Cette fin tragique de Fiston Kabeya rappelle que les allées du pouvoir pullulent de gens dangereusement primaires. Le fait qu'il gravite autour d'un chef d'État ou d'un premier ministre n'y change rien. C'est dur à entendre, mais dans nombre d'États africains, la proximité avec le pouvoir pousse beaucoup à se croire omnipotent, avec droit de vie ou de mort sur tout citoyen qui s'aviserait de les défier. C'était aussi cela, le pouvoir colonial.
Merci Jean-Baptiste Placa. Dans Menace sur l'information, cap ce matin sur la Serbie, pays secoué depuis des mois par une contestation massive et une répression violente sous le régime autocrate d'Aleksandar Vučić. La Serbie ne cesse de reculer dans tous les classements internationaux et la liberté de la presse n'y échappe pas. En 13 ans de règne, le président a méthodiquement mis sous sa coupe tous les médias, Jelena Tomić.
Seuls environ 10% des Serbes ont accès à des chaînes indépendantes mais payantes, tandis que plus des trois quarts des citoyens s'informent via des chaînes autorisées à émettre sur tout le territoire et étroitement contrôlées par le gouvernement qui utilise des tactiques d'intimidation. Branko Čečen, journaliste.
Le pays est devenu un désert de l'information. L'écrasante majorité des médias, radio, télévision ou presse diffusent de la propagande ou de la désinformation. Deux tabloïds pro-gouvernementaux ont consacré en un an 260 de leur une à une menace de guerre, entretenant ainsi la peur et le souhait d'un leader fort. Autre exemple, dans les 17 premiers jours de l'année, Aleksandar Vučić s'est adressé à la nation durant 18 heures, auxquelles il faut ajouter 10 heures de programme positif ou neutre le concernant.
L'un des points noirs qui concentre toutes les tensions ces derniers mois, c'est la RTS, la télévision publique, adepte de la censure. Aleksandra Nikolajević, maître de conférence à la faculté de philosophie de Niche.
Ici, vous n'avez pas de chaîne objective. Même la RTS, qui est censée être un média de service public, relaye de la désinformation. Que le mouvement de contestation étudiant, par exemple, vise à détruire l'État, à créer le chaos ou l'anarchie, ce qui est totalement irresponsable. La mission de la RTS n'est pas au service des citoyens, mais du pouvoir. Et le problème, c'est que selon certaines études, la RTS continue d'être le média le plus crédible dans la population.
L'instrumentalisation des médias, qu'ils soient publics ou privés, est une spécialité de l'actuel président, ancien ministre de l'Information sous Milosevic. Selon Branko Tchétchène, Vučić œuvre depuis au moins 10 ans à verrouiller les médias par crainte d'un renversement.
La rédaction de la RTS est triée sur le volet. Les journalistes se plient à la propagande. En ce moment, la chaîne abrite plus de policiers que de salariés. Des agents des renseignements surveillent le bâtiment prêt à intervenir et en cas de contestation, prêt à suspendre, licencier ou éloigner des journalistes des programmes d'information.
Discrédité ou boycotté par les médias traditionnels, le mouvement étudiant pro-démocratie et anticorruption s'est tourné vers les réseaux sociaux. Grâce à leurs actions menées dans tout le pays, ils jouissent aujourd'hui du soutien de près de 80% de la population.
La Serbie dans Menace sur l'information avec Jelena Tomić. Et chaque samedi sur RFI, Lucie Bouteloup part à la rencontre des amoureux de la langue française et de leurs mots fétiches. C'est un mot, une histoire.
C'est un mot qui génère du mouvement, qui nous invite à transcender nos limitations et qui à la fois révèle un moment un peu unique et singulier.
Il vous suffit de l'écouter pour voir la vie en couleur. 3 albums déjà que João Selva, chanteur et guitariste brésilien, mais français d'adoption, nous enchante avec sa samba matinée de funk, de soul, de jazz et aussi de rythmes africains. Avec Onda, son dernier opus, impossible de ne pas se laisser gagner par sa joie de vivre communicative. La preuve, avec le mot dont il a choisi de nous parler pour cet épisode.
Un mot, une histoire, Lucie Bouteloup.
Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler du mot « danse ». Déjà parce que c'est un mot qui sonne bien, c'est un mot qui pourrait presque être de l'espéranto, hein, puisqu'en portugais c'est danse, en français danse, en allemand danse, en anglais dance. Et donc c'est un mot qui résonne aussi de part et d'autre de l'Atlantique, et ça me touche. Et c'est un mot qui a du mouvement dans la manière comment il sonne, il percute, danse. Quand on a un tambour par exemple qui est frappé, on a ce premier son de l'attaque, le « dum », ici ce serait le « dé ». Et ensuite, on a cette résonance, « danse, danse ». Et pour moi, ça rappelle le tambour. Et c'est Nana Vasconcelos, un grand musicien brésilien, qui disait que le tambour était le nombril du monde. Et effectivement, c'est notre premier langage, les percussions corporelles, ce qu'on tapait. Et donc, dans « danse », il y a ça pour moi, dans ce mot. Il y a cette frappe et cette résonance qui s'étend jusqu'à l'infini.
Viens danser avec moi.
Et puis João Selva, dans votre dernier album, vous avez un titre, c'est le seul en français, qui s'intitule « Viens danser ». Donc la danse vous a inspiré votre première chanson en français.
Oui, c'est venu naturellement. Des fois, en écrivant les chansons, on a les textes qui viennent en premier. Des fois, c'est une mélodie, des fois, c'est une harmonie, des fois, c'est un phrasé. Et là, pour le coup, c'était une sorte de yaourt, comme ça. Et le yaourt s'est transformé naturellement en « Viens danser ». Et donc, une fois que ça s'était fait, et ben, voilà, ça m'a poussé à écrire tout le couplet en français. C'est une chanson au départ qui dit en fait, quand ça va pas, quand on a ces murailles qu'on n'arrive pas à transposer, et ben c'est à ce moment-là qu'il faut danser. Et pour moi, qui réside ici, c'était important que le public francophone puisse saisir le message. Après, j'avoue que chanter en français, c'est pas facile pour moi de faire sonner cette langue malgré toutes ces années où je réside ici. Et donc, j'ai invité Claire Vincent à venir interpréter cette chanson avec moi et je suis très content du résultat final.
Selon le dictionnaire de l'Académie française, le mot « danse » désigne un mouvement du corps et un enchaînement de pas exécutés en cadence, ordinairement au son d'instruments de musique.
C'était un mot, une histoire, une chronique avec le soutien de la délégation générale à la langue française.
Lui. Lucie Bouteloup avec Joao Selva et son album Onda. Bientôt 8h en temps universel et à Bamako. RFI Matin se termine, mais on continue toute la journée de rendre hommage à Amadou Bagayoko, guitariste et chanteur malien, la moitié du duo Amadou et Mariam qui nous a quittés hier. Il y a quelques mois, il était encore sur les écrans du monde entier pour la clôture des Jeux Paralympiques. Amadou et Mariam et une reprise de Serge Gainsbourg au goût doux amer ce matin.
Que je m'en vais. Que tes larmes ne pourront rien changer. Comme dit si bien Verlaine, au vent mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours anciens et tu pleures. Faut que tu blémis à présent, car son hilaire les a dit à jamais. Et je suis au regret de dire que je m'en vais. Je t'aimais, oui, mais je suis venu te dire que je m'en vais. Les sanglots longs ne pourront rien changer. Bien, 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 pour pas mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais.
Responsable. Tu te souviens des jours heureux
et tu pleures. Tu sembles que j'ai mis à présent, car son erreur ne t'a dit à jamais. Oui, je suis au regret.
Il s'en est allé, Amadou Bagayoko. Amadou et Mariam ce matin sur RFI et des hommages toute la journée. Évidemment, vous les retrouvez également sur RFI.fr. On se retrouve demain dès 5h, temps universel. Merci à Christophe Pernet à la réalisation de ces 3h d'RFI Matin. Je vous souhaite une bonne journée sur la radio du monde.
Je suis venu te dire que je m'en vais.
Tout à l'heure sur RFI, Écho d'ici, Écho d'ailleurs, Bruno Faure.
Face à la menace russe, l'Europe se prépare à basculer en économie de guerre. La Commission de Bruxelles annonce 800 milliards d'euros pour réarmer le continent. Quelle est la stratégie des 28? Quelles sont leurs capacités de production et comment les financer? On en parle avec nos invités.
Écho d'ici, Écho d'ailleurs, avec la Banque Ouest-Africaine de Développement.
Tous les samedis à 10h10 TU sur RFI.
L'Opinion et le Conseil français des investisseurs en Afrique organisent le 29 avril prochain le forum Investir en Afrique autour du thème L'entreprise, moteur d'une croissance durable. Un événement incontournable pour explorer les opportunités économiques et sociales du continent avec un focus sur la croissance durable. Plus d'informations et inscriptions sur le site de l'Opinion, rubrique Événements, le 29 avril prochain, à Paris, en partenariat avec RFI.